J'ai une question bien importante pour vous. Est-ce que Dieu souhaite que nous ayons uniquement une connaissance intellectuelle de sa parole? Eh bien, c'est justement sa parole qui va nous en donner la réponse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On va couvrir beaucoup de questions aujourd'hui, et je suis certaine qu'elles vont vous intéresser. Les voici. Est-ce que la naissance de Jésus-Christ est l'accomplissement de prophéties? A-t-on prophétisé d'autres événements concernant Jésus? Devons-nous forcer l'interprétation des prophéties pour affirmer leur accomplissement? La Bible dit-elle que suite à la naissance de Jésus, trois mages sont arrivés à Jérusalem? Est-ce que la tradition de Noël est exacte dans tous les faits selon la Bible? Est-ce qu'une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu est suffisante? Ou devons-nous avoir une connaissance qui nous amène dans les bras de notre Sauveur? Est-ce que les mages ont trouvé Jésus dans une étable ou dans une maison? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il régnera éternellement? Est-ce que les mages ont adoré uniquement Jésus? Ont-ils adoré Marie aussi? Est-ce que la deuxième venue de Jésus-Christ a été prophétisée? Dieu est fidèle. Il va répondre à chacune de ces questions. Il nous les a données dans sa parole. Et le pasteur Régent Joly a le doigt sur chacune d'elles en ce moment. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre l'enseignement qu'il a pour nous aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur, tu vas encore nourrir nos âmes. Tu vas nous faire comprendre ta parole aujourd'hui. Alors aide-nous à bien saisir ce que tu veux nous dire. Amen. À toi Régent.
Merci Caro. Aujourd'hui, nous passons à l'étude du deuxième chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible à cet endroit. Nous avons dans ce chapitre le récit des mages d'Orient qui ont visité Jésus après sa naissance, la fuite en Égypte, ainsi que le retour de la famille à Nazareth. Nous avons ici des faits historiques. C'est ce qui s'est produit à l'époque. Mais en arrière-plan, nous découvrons une précieuse vérité spirituelle qui ne doit pas nous échapper. Nous avons déjà mentionné que chaque évangile est adressé à une culture différente afin de rencontrer ses besoins particuliers. L'évangile selon Matthieu est destiné à la nation d'Israël. Il s'adresse aux personnes religieuses. Nous retrouvons dans ce chapitre l'accomplissement de quatre prophéties. C'est là le but de ce chapitre. Montrer que ces faits historiques sont l'accomplissement de prophéties au sujet du Messie. Il y a 7 ou 8 prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplirent à la naissance de Jésus-Christ. Je vais les regrouper et nous verrons comment elles furent accomplies au temps de Jésus-Christ. Je suis certain qu'au temps de Jésus-Christ, bien des étudiants des Écritures se sont demandé comment toutes ces prophéties purent s'accomplir. Ceci semblait être tout un exploit. L'Ancien Testament a annoncé que Jésus devait naître à Bethléem. Nous retrouvons cela dans Michée, chapitre 5, verset 2. Jésus doit être appelé hors d'Égypte. Osée, chapitre 11, verset 1er. Il devait y avoir des pleurs à Rama. Rama est aussi loin au nord de Jérusalem que Bethléem l'est au sud. S'il est né à Bethléem, pourquoi t'on pleuré à Rama? Nous trouvons cette prophétie dans Jérémie, chapitre 31, verset 15. Finalement, pour terminer, nous avons le fait que la famille de Jésus s'établit à Nazareth. Cela encore est l'accomplissement d'une prophétie. Jésus fut appelé le Nazaréen, et nous trouvons cela dans Ésaïe, chapitre 11, verset 1er. Comment expliquons-nous l'accomplissement de toutes ces prophéties au sujet d'un petit enfant né à ce moment-là? Matthieu montre que ces prophéties furent littéralement accomplies avec exactitude et aisance. Nous n'avons pas besoin de forcer l'interprétation des prophéties pour affirmer qu'elles furent accomplies. Nous n'avons pas besoin d'ajouter aux faits historiques ni de les réécrire. Personne n'a eu à manipuler qui que ce soit pour qu'elles s'accomplissent. Les prophéties s'accomplirent exactement comme Dieu l'avait annoncé. De nos jours, nous avons de nombreuses prophéties au sujet de la deuxième venue de Christ, et parfois nous éprouvons de la difficulté à les faire correspondre entre elles et de percevoir de quelle façon elles s'accompliront. Je pense que le temps de leur accomplissement est très proche, mais lorsqu'elles s'accompliront, nous observerons que tout se fera très naturellement. Ce qui nous semble parfois une énigme présentement, ici-bas, nous semblera aussi naturel que les prophéties de la première venue lorsque nous serons avec Christ et qu'elles auront été accomplies. Toutes les pièces du casse-tête seront en place, et nous nous demanderons alors pourquoi nous ne pouvions pas en percevoir la simplicité. Voyons comment se sont produites les choses au temps de Jésus. Et je suis certain que c'est la raison pour laquelle Matthieu les a racontées. Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ici, la Bible nous raconte l'arrivée des mages à Jérusalem, et ils désiraient savoir où était né le roi des Juifs. Ceci se passe au temps du règne du roi Hérode, et celui-ci ne veut pas d'un rival, et il n'a pas l'intention d'en tolérer la présence d'un seul. Donc, il se sent menacé parce que les mages lui disent, reprenons le verset. Voici les trois mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Est-ce que c'est ce que votre Bible dit? Non, allez-vous me dire, vous avez ajouté le nombre trois. N'est-ce pas ce que nous enseigne la tradition de Noël? Ne place-t-on pas trois mages dans les crèches et sur les images saintes? Bien des gens en ont appris davantage sur la naissance de Jésus à Bethléem, sur les images des cartes de Noël, que du texte biblique lui-même. Cependant, la tradition représentée par les cartes de Noël et les crèches contient beaucoup d'inexactitudes. Un jour, un groupe d'élèves ont créé une carte de Noël sur laquelle toutes les inexactitudes furent corrigées. Premièrement, il n'y avait pas trois mages. Je ne savais pas combien il y en avait, mais je ne pense pas que trois mages auraient troublé Hérode ou semé les mois dans Jérusalem. Je pense cependant que 300 mages l'auraient fait. Ces mages de l'Orient ont dû venir de plusieurs régions et ils étudiaient les étoiles. Ils en ont vu une exceptionnelle, se sont rassemblés et sont venus à Jérusalem. Personnellement, je pense que leur nombre exact était plus près de 300 que de 3. Cependant, je reconnais ne pas connaître le nombre de mages qui sont venus à Jérusalem. La Bible ne nous le dit pas. Ils arrivèrent à Jérusalem cherchant le roi des Juifs qui venait de naître. Ceci a inquiété Hérode. Verset 2. Et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Maintenant, ce que je vais vous dire va peut-être surprendre un certain nombre d'entre vous. Cependant, je dois le dire. Le texte dit, « Car nous avons vu son étoile en Orient. » Cette étoile est souvent appelée l'étoile de l'Orient. Il existe même une organisation qui porte le nom d'Étoile de l'Orient. En fait, le texte dit, « Nous avons vu son étoile en Orient. » Ont-ils vu une étoile qui se trouvait en Orient, ou ont-ils aperçu une étoile alors qu'ils se trouvaient en Orient? Si c'était une étoile qui se trouvait à l'est, ils auraient fait route vers la Chine. L'étoile était à l'ouest. Les mages se trouvaient en Orient. Donc, les mages qui se trouvaient en Orient ont vu l'étoile de Jésus qui se trouvait à l'ouest. Donc, en prenant la direction de l'étoile, les mages sont allés vers l'ouest, non vers l'est. Je tiens à faire cette précision car la tradition insiste beaucoup sur l'étoile de l'Orient. Comment les mages ont-ils pu associer une étoile à un roi? Et pourquoi ont-ils associé cette étoile avec la nation d'Israël? Une prophétie circulait en Orient. Balaam avait fait cette prophétie dans le chapitre 24 du livre des Nombres. Le verset 17 dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. » Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Notez ce que dit cette prophétie. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. L'astre et le sceptre sont associés et c'est la seule fois qu'un astre est associé à un sceptre dans les prophéties de l'Ancien Testament. Les mages de l'Orient connaissaient probablement cette prophétie. Donc, ces hommes qui ont vu l'étoile cherchent le roi qui y est associé. Maintenant, notez que cette prophétie a créé des remous à Jérusalem. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. L'arrivée à Jérusalem d'un nombre important de mages, un défilé de quelques centaines de mages, a créé tout un émoi. Ce n'aurait pas été le cas avec seulement trois mages. Hérode veut des renseignements supplémentaires au sujet de ce roi. Hérode est reconnu pour avoir été superstitieux. Si vous avez un bon dictionnaire biblique, jetez un coup d'œil sur la famille d'Hérode. C'était une famille de rois ambitieux et malveillants, envers tout rival. Le roi régnant au temps de la naissance de Jésus fut le plus cruel. Il s'était fait nommer roi en soudoyant le gouvernement romain. Les rois hérodiens n'étaient pas des juifs. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. En fait, le mot original est plus fort. Il exigea les renseignements. Il ne fit pas simplement se renseigner. Il sait que les prophètes juifs ont annoncé la venue d'un Messie, et il veut connaître l'endroit où il doit naître selon leur prophétie. L'élite religieuse juive était en mesure de répondre à cette question. Versets 5 et 6. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Lorsque la question fut posée aux scribes, les principaux sacrificateurs et les scribes n'ont pas eu besoin de fouiller longtemps dans l'Ancien Testament, ni de sortir une concordance ou un dictionnaire biblique. Ils savaient où trouver la réponse. Ils ont tourné immédiatement dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, verset 2. En fait, ils n'avaient même pas besoin de dérouler leur parchemin. Ils connaissaient bien le texte en question et ils pouvaient le citer de mémoire. Ils savaient tout au sujet de la venue du Messie. Malheureusement, leur connaissance était strictement intellectuelle. Ce n'est pas des connaissances qui touchent et transforment le cœur. Nous serions portés à croire que puisqu'ils connaissaient l'Ancien Testament, qu'ils connaissaient l'histoire et certains faits bibliques, qu'ils se seraient empressés de se rendre à Bethléem, surtout que la petite ville ne se trouvait pas loin de Jérusalem. Ils auraient insisté pour guider personnellement les mages jusqu'à Bethléem. Je me demande combien de personnes attendent vraiment le retour de Jésus-Christ aujourd'hui. Bien des gens peuvent discuter longuement du sujet. Ils ont lu la Bible, des livres, assisté à des conférences. Mais est-ce que ces mêmes personnes seraient heureuses si Jésus-Christ revenait immédiatement? Maintenant? Seraient-elles contentes de le voir? Si Jésus-Christ se présentait à vous aujourd'hui, vous dérangerait-il dans vos occupations et vos plans? Lui demanderiez-vous de repasser une autre fois? les principaux sacrificateurs et les scribes n'étaient pas prêts à recevoir Jésus-Christ. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Je vais maintenant faire un énoncé et le prouver plus loin. L'étoile brillait depuis un certain temps avant l'arrivée des mages. Ils ont voyagé à dos de chameau, pas en avion ne lisait. Il leur a fallu un certain temps afin de traverser le désert. Ils ont dû arriver à Jérusalem une année après l'apparition de l'étoile. Donc, pour les mages, ce ne fut pas une célébration de Noël très brève. Ils espéraient voir le Messie depuis un certain temps. De plus, ils apportaient des cadeaux pour leur roi qui venait de naître. Verset 8. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hérode, le vieux serpent, est égal à lui-même ici. S'il avait envoyé des soldats à Bethléem, il n'aurait sûrement pas trouvé l'enfant. Il savait que ses parents cacheraient l'enfant et que la population ne collaborerait pas avec lui. Hérode avait compris que les mages trouveraient l'enfant plus facilement que lui. Donc, il les envoie à Bethléem et il leur demande de lui donner des nouvelles sur le chemin du retour sous prétexte qu'il désire aussi adorer l'enfant. Cependant, il désire faire mourir l'enfant. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile est de nouveau visible. Ils ont dû voyager longtemps sans l'apercevoir. À chaque Noël, des journaux publient des explications au sujet de cette étoile. Des spécialistes suggèrent que l'apparition de cette étoile était en fait une confluence d'étoiles produites à ce moment-là. Matthieu nous dit clairement que nous avons ici une étoile inhabituelle, exceptionnelle. En fait, une étoile surnaturelle. Nous assistons à un phénomène miraculeux et nous n'avons pas à l'expliquer. Cependant, il se peut que les astronomes aient raison et qu'il y eut beaucoup de mouvements dans le ciel à cette époque. Lorsque Jésus est né, il y a eu de la joie dans le ciel aussi bien que sur terre. Alors ici, les mages ont vu une étoile surnaturelle. Versets 10 et 11. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Notez que les mages ne trouvèrent pas Jésus dans une étable derrière une auberge. Jésus se trouvait dans une maison. Lorsque Joseph et Marie vinrent à Bethléem, il y avait une foule en ville à cause du recensement. À l'arrivée des mages, cette foule n'était plus là. Chacun était retourné dans sa ville. Mais Joseph et Marie avaient un petit bébé naissant dont ils devaient s'occuper. Voyager avec l'enfant aurait probablement mis sa vie en danger. Donc, Marie et Joseph sont demeurés à Bethléem et ils se sont installés dans une maison. C'est dans cette maison-là que les mages ont trouvé l'enfant. Sur les cartes de Noël, ainsi que sur les images saintes, nous voyons les mages visiter Jésus dans une étable. En fait, à moins que Joseph leur ait indiqué ou fait visiter l'étable, les mages n'ont jamais su où elle était. Les mages se sont présentés à une maison. Notez aussi que lorsqu'ils virent l'enfant avec sa mère, c'est l'enfant qu'ils adorèrent. S'il y eut une foi pour prier Marie ou lui rendre un culte, c'était celle-ci. Mais les mages, les hommes sages de l'Orient, ont adoré l'enfant, non la mère de celui-ci. Ils ont adoré Jésus et ils ont ouvert leur trésor pour faire des dons à l'enfant. Ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 6, prédit la deuxième venue de Christ. Si nous comparons les faits de ce chapitre et ceux de la prophétie, nous notons un détail très intéressant. Lisons premièrement la prophétie. « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. » Remarquez que lorsque le Christ reviendra la deuxième fois, il ne recevra pas de myrrhe comme la première fois, il recevra de l'or et de l'encens. Les gens ne lui apporteront pas de myrrhe, parce que la myrrhe annonce sa mort. Lorsque Christ reviendra, il ne sera pas question qu'il meure. Donc, aucun don n'annoncera la mort de Christ. L'or parle de sa naissance et de sa royauté. Donner de l'or à Jésus, c'était le reconnaître comme roi. L'encens parle de sa vie. La vie de Christ fut un parfum de bonne odeur qui nous révéla la grâce et la miséricorde de Dieu. Christ était une bonne nouvelle, un appel à la repentance pour recevoir la vie éternelle. La myrrhe annonçait la mort du Christ. Donc, les cadeaux qu'il a reçus à sa naissance révélaient Christ le roi, Christ l'intercesseur ou le prêtre, et Christ l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ revient une deuxième fois, non pas pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, mais pour régner. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revient. Chers amis, que pouvons-nous lui offrir aujourd'hui? Offrir à notre Seigneur, offrir à notre roi. L'apôtre Paul nous dit ce que nous pouvons lui offrir dans notre moment présent, à l'instant même. Romains chapitre 12, les versets 1 à 8, nous pouvons lui offrir notre vie ainsi que nos capacités. Lisons ensemble, Romains 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Toujours dans le but d'honorer son Dieu. Oui, chers amis, à l'exemple de ces mages qui sont allés dans cette maison pour adorer le roi. Nous sommes exhortés, nous aussi, par notre vie, à faire des actes qui vont honorer notre Dieu. Et je cite dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Les moindres détails de la vie, de ma vie, de ta vie, devrait honorer et glorifier notre grand Dieu. Mes chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 2, verset 12, jusqu'à Matthieu chapitre 3, verset 9.
Merci, Régent. Je suis contente que Dieu nous confirme qu'une connaissance intellectuelle de sa parole ne suffit pas. Je suis heureuse qu'ils nous disent que la connaissance qu'ils nous donnent doit nous amener dans les bras de notre merveilleux Sauveur. Je me souviens de mes premiers pas après être né de nouveau. J'avais commencé à lire la Bible dans l'Évangile de Jean. À chaque phrase, j'étais émerveillée. J'étais au pied de Jésus comme Marie, la sœur de Marthe. Et en lisant sa parole, Jésus m'enseignait lui-même. Il me faisait goûter à sa présence. Je découvrais de plus en plus qui était ce Sauveur qui avait donné sa vie pour moi, pour me racheter de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Et j'ai grandi en connaissance. Mais si cette connaissance avait été seulement intellectuelle, je n'aurais pas grandi. Il fallait que Dieu touche mon cœur, que je réalise profondément qu'il nourrissait mon âme pour me donner des forces pour m'éloigner du péché, pour accomplir les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour moi. Si on a de la connaissance intellectuelle, on peut la partager avec d'autres, mais ça s'arrête là. Je ne crois pas que ça fasse effet dans leur vie ni dans la nôtre. Mais quand on comprend que l'enseignement vient de Dieu, que c'est Lui qui parle à nos cœurs, quel empressement on a pour le mettre en pratique dans nos vies. Par exemple, quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de rendre le bien pour le mal, si on réalise que c'est vraiment ça qu'il nous demande, que c'est ce qu'il a fait lui-même alors qu'on était des pécheurs perdus, on était ses ennemis avant de nous détourner du mal, eh bien, on s'empresse de le faire. Quelle joie lorsqu'on a l'opportunité de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal. C'est alors qu'on imite celui qui a été notre modèle parfait. C'est là qu'on goûte à la joie que donne l'obéissance à notre grand maître. C'est là qu'on apprend ce que c'est d'aimer une personne inconditionnellement. Sans compter que ce geste peut attirer cette personne au Seigneur Jésus. Cette personne peut recevoir son beau salut. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Puis il ajoute au verset 25 que celui qui persévère à mettre en pratique la parole de Dieu sera heureux dans son activité. Hein, on est heureux quand on met en pratique la parole de Dieu. Ou que Dieu puisse toucher nos cœurs par sa parole à chaque jour, qu'elle puisse faire effet. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, demandons-lui de toucher notre cœur, que ça vienne de lui, son enseignement. Et ça va produire des beaux fruits. Puis ça va être pour la gloire de Dieu. Es-tu touché par la parole de Dieu? Viens, Jésus. Laisse-le toucher ton cœur. Ouvre ta parole, ouvre la Bible à chaque jour. Et demande à Dieu de te parler, de te toucher. Dieu aime communier avec toi. Il aime que tu sois dans sa présence. Demande-lui de le faire.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec. Vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca. Ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.